France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jean-Paul II et la CIA, histoire secrète d'une sainte alliance. Au mois de février 92, un article du magazine Time fait trembler les murs du Vatican à Rome. Au cœur des révélations, l'existence d'un pacte secret entre Jean-Paul II et Ronald Reagan, 10 ans plus tôt. D'après le journaliste Carl Bernstein, qu'on connaît pour avoir soulevé avec son confrère Woodward l'affaire de Watergate, le pape et le président des États-Unis se seraient engagés dès 1982 dans une sainte alliance contre l'Empire du Mal, je reprends ces mots. Dans le contexte de la guerre froide, le mal, c'est bien sûr l'Union soviétique, une obsession. L'Alliance, elle, vise à soutenir la résistance polonaise et l'Église catholique du pays pour mieux déstabiliser le glacis communiste en Europe de l'Est. D'après l'enquête de Bernstein, la CIA aurait fourni de l'argent et des renseignements. Le pape, lui, aurait tenu le rôle de chef de réseau sur le terrain. Une théorie séduisante, mais réfutée par de nombreux responsables américains et polonais de l'époque qui parlent, eux, d'une affaire fabriquée de toutes pièces. Reste qu'avec Jean-Paul II, la neutralité politique d'un pape n'est qu'un souverain poncif. Notre invité aujourd'hui est Yonick de Noël, spécialiste du renseignement et des affaires d'espionnage. Il est l'auteur du livre intitulé « Les espions du Vatican, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours », livre réédité aux éditions Nouveau Monde en 2023. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Cara, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante, réalisation, Stéphane Kohn.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego.
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, la télévision polonaise interrompt brusquement ses programmes. Apparaît alors à l'écran un homme engoncé dans un uniforme militaire. Lunettes fumées, crâne dégarni, visage impassible, sinistre. C'est le général Jaruzelski, chef des armées. D'un ton grave, il annonce l'instauration immédiate de la loi martiale en Pologne, seule solution, d'après lui, pour mettre fin à des mois de révolte sociale et la menace d'un chaos politique. Dans l'heure qui suit, 35 millions de Polonais et leur pays tout entier s'enfoncent dans les ténèbres. Postes frontières fermés, espaces aériens interdits, circulation interrompue sur les grandes routes, téléphones coupés. Dans les principales villes de Pologne, Varsovie, Lodz, Poznan, Gdańsk, les chars de l'armée et les brigades de la milice se déploient pour faire respecter le couvre-feu. En l'espace d'une nuit, donc, la Pologne bascule dans ce qu'on appelle l'état de siège. Autrement dit, rassemblement interdit, école fermée, censure totale, peine de mort requise en cas de grève, internement dans des camps. Vu d'Europe de l'Ouest, on appelle ça une dictature. Vu du RSS, on parle d'une reprise en main. À Washington, la Maison-Blanche et le Pentagone suivent de très près l'évolution de la situation sur place, en Pologne. Le correspondant de France Inter dans la capitale américaine, Claude Mazot, raconte.
Les services de renseignement américains sont formels. Aucun mouvement de troupes soviétiques n'a été décelé, pour l'instant, sur le territoire polonais. Aucun mouvement de navires russes non plus dans la Baltique. Pour les satellites qui épient tout ce qui se passe partout où pèse l'hypothèse d'une menace soviétique, la situation est également normale aux frontières de la Pologne avec les pays qui sont alliés de l'Union soviétique. Dans leur majorité, les spécialistes américains pensent que l'Union soviétique n'interviendra pas.
Au même moment en Pologne, le général Jaruzelski tient la population d'une main de fer. Afin de préserver l'ordre public, il ordonne l'arrestation de plus de 10 000 opposants au régime. En ligne de mire, Solidarnosc, dont une très grande partie des personnes arrêtées sont membres. Premier syndicat indépendant du bloc soviétique, Solidarnosc est depuis un an la figure de proue de la contestation en Pologne. D'une lutte sociale sur les chantiers navals de Gdańsk, le mouvement s'est étendu à tout le pays et menace de contaminer les autres républiques soviétiques, en tout cas affiliées à l'URSS. Avec la proclamation de la loi martiale, Solidarnosc se retrouve interdite, bâillonnée et même décapitée. Moscou, veut stopper l'hémorragie. Avant même la prise de parole de Jaruzelski à la télévision, en effet, des hommes en costume sombre frappent à la porte d'une chambre d'hôtel de la banlieue de Varsovie. Quelques instants plus tard, ils repartent avec un prisonnier, Lech Walesa. Dans les capitales occidentales, les rumeurs les plus folles circulent. Le KGB a-t-il interné ou même exécuté le leader de Solidarnosc? Parmi les premiers à réagir, il y a Karol Wojtyla, ancien archevêque de Cracovie, désormais pape de l'Église catholique, Jean-Paul II. Consterné par ce qui vient de se jouer dans son pays, il prononce une allocution et assure le peuple polonais du soutien total de l'Église.
Les événements des dernières heures m'obligent de m'adresser encore une fois à tous au sujet de notre patrie commune, vous demandant des prières. On ne peut plus faire couler le sang polonais, car trop de sang polonais a été versé au cours de la dernière guerre. Il faut tout faire afin de bâtir l'avenir de la patrie dans la paix. Je confie la Pologne et tous mes compatriotes à la Vierge qui nous a été donnée pour notre défense.
Dès sa nomination comme chef de l'Église catholique en 78, Jean-Paul II s'est fait la voix des résistants polonais. Anticommuniste viscéral, combattant sans relâche cette idéologie athée, il n'hésite pas à tacler, à dénoncer et même à provoquer le régime en place à Varsovie. Gouvernement fantoche aux ordres directs de Moscou. D'ailleurs, dès sa première visite officielle en Pologne, en 79, Jean-Paul II surprend tout le monde. Après avoir fait quelques pas, il s'agenouille et embrasse le tarmac de l'aéroport de Varsovie. La scène fait l'ouverture des journaux télévisés dans le monde entier. En Pologne, l'Église catholique est considérée par beaucoup comme le troisième pouvoir, le seul auquel les durs du régime communiste n'osent pas toucher. Jean-Paul II le sait, et il fait de son voyage un séjour aussi politique que religieux. Lors d'un discours devant une foule monstre, le souverain pontife appelle ainsi au respect des droits de l'homme, à la liberté de conscience et à la primauté de l'individu sur la masse. Des propos contraires aux idéaux de la révolution soviétique. En coulisses, le général Jaruzelski et sa clique de militaires au pouvoir sont furieux. Présent à Varsovie, le journaliste Philippe Rochaud témoigne.
Aujourd'hui, à Częstochowa, Jean-Paul II célèbre sa sixième messe. Au total, il y en aura 12. Des propos adressés ici et là, et qui ne font pas toujours très plaisir aux autorités, d'où une certaine irritation, on retient encore ce matin l'important discours du pape aux évêques polonais. Un discours politique. L'Église polonaise, dit-il en substance, a toujours été dans l'histoire la clé de voûte de l'édification et de l'évolution du pays. Aujourd'hui, ce rôle se poursuit, même si le dialogue avec l'État n'est pas facile à cause de l'idéologie du régime. L'Église a ce même rôle capital à jouer dans le rapprochement entre l'Est et l'Ouest.
Comme ce reportage nous l'a fait entendre, les images de ces millions de Polonais venus prier avec le pape confirment la puissance et le rôle de Jean-Paul II sur la scène diplomatique. Et bien sûr, à Washington, l'administration américaine voit dans le Vatican un allié de poids pour déstabiliser le glacis soviétique en Europe de l'Est. La Pologne, catholique, résistante et syndiquée, est le mauvais élève de la classe au sein du pacte de Varsovie. Mais pour les États-Unis, elle doit le rester. Dès 1978, la Maison-Blanche dispose d'un contact direct avec le pape, en la personne du conseiller à la sécurité nationale de l'administration Carter. Cet homme s'appelle Zbigniew Brzeziński. Comme son nom l'indique, il est d'origine polonaise. Autant dire qu'il prend l'affaire à cœur. C'est lui qui suggère à Jean-Paul II de prendre position en public et de faire comprendre que les intérêts qu'il défend convergent avec ceux des Américains en Europe. Le pape suggère, les États-Unis appuient. Très vite également, il apparaît que Jean-Paul II est bien mieux informé que les services de renseignement américains sur ce qui se passe en Pologne. La CIA cherche des informations, le pape dispose d'un incroyable réseau sur le terrain. Alors, dans le plus grand secret, de premiers échanges ont lieu. Et plus si affinités. Car si Jean-Paul II se rapproche des Américains, Il rencontre aussi toujours secrètement l'ambassadeur du RSS à Rome et tente de négocier pour éviter que les soldats de l'armée rouge n'envahissent la Pologne. En échange, le pape promet aux soviétiques qu'il va dissuader Solidarnosc de lancer une nouvelle grève. Jean-Paul II est désormais l'une des pierres angulaires de la diplomatie internationale pour tout ce qui touche à la Pologne. Et preuve que ce pape est décidément très politique. Quelques semaines plus tard, face aux caméras, il reçoit en grande pompe Lech Wałęsa au Vatican et plusieurs hauts responsables du syndicat Solidarnosc. En public, il fait part de son admiration pour le leader syndical polonais. En coulisses, le Saint-Siège promet argent et aide logistique pour aider Solidarnosc. Au micro de France Inter, le rédacteur en chef du journal du syndicat le remercie.
Et c'est pas seulement pour ça que c'est le pape polonais, mais aussi pour ça que c'est quelqu'un qui nous aidait bien. Si ce n'était pas son voyage en Pologne, je ne crois pas que tout notre mouvement pourrait se naître cette année.
Vous pensez que le pape peut encore aider la Pologne, peut encore aider Wałęsa?
Mais c'est plutôt la question de certains... Et l'aide spirituelle qui est pour nous vraiment très important. Quelqu'un qui comprend notre situation, qui a vécu notre situation. Et je pense que cette visite nous donna nouvelle énergie dans la société.
Revenons à cette nuit sombre et froide du 12 au 13 décembre 1981. À Varsovie et dans toute la Pologne, l'état de siège vient d'être proclamé par le général Jaruzelski. On l'a dit, les rues sont désertes, silencieuses. À l'inverse, au même moment, couloirs et bureaux du Vatican à Rome sont le théâtre d'une intense agitation. Ici et là, un balai d'hommes en soutane apparaît puis disparaît. Ils sont tels des fantômes. Officiellement, le Vatican ne dispose pas de services de renseignement. Officieusement, donc, dans la réalité, le pape peut compter depuis des siècles sur un système d'espionnage redoutable. Dépourvu de bureaucratie, cloisonné entre ses groupes, disposant d'un appui local de plusieurs milliers de missions catholiques, les services secrets du Vatican, entre guillemets, sont considérés comme parmi les plus fiables du monde. De sorte que cette nuit-là, Jean-Paul II est l'un des hommes les mieux informés sur la situation en Pologne. Son secrétaire particulier, le cardinal Stanislas Divitch, partage des renseignements obtenus par le Vatican avec le directeur de la CIA en personne, William Casey. Et ça tombe bien. Cet homme est un fervent catholique, il va tous les jours à l'église. Et comme le pape est aussi un anticommuniste farouche, ces deux-là sont faits pour s'entendre. Dès l'élection de Reagan à la Maison-Blanche, en novembre 80 d'ailleurs, Casey prend contact avec le Vatican, histoire de développer un canal de communication directe entre Rome et l'Anglais, le siège de la CIA. L'un des assistants de Jean-Paul II, Mgr Kabongo, racontera plus tard la première rencontre entre les deux hommes au mois d'avril 81. Cette réunion sommet n'apparaît sur aucun agenda et elle se déroule sans interprète. Oui, pour éviter toute fuite. Aux côtés du directeur de la CIA, on trouve le général Walters, homme de confiance du président Reagan. Il est le premier à prendre la parole, comme l'expliquera Mgr Kabongo.
Le général Walters demande au pape dans quelle langue il doit s'exprimer. Le Saint-Père lui répond qu'il préfère que l'entretien se déroule en italien. Walters accepte et commence par lui transmettre les sincères salutations du président Reagan. Le pape lui retourne le compliment. Ensuite, Walters sort de sa serviette en cuir des photos prises par des satellites espions de la CIA. Jean-Paul II est émerveillé par la netteté des clichés. Sur les photos, on aperçoit le déploiement des forces du pacte de Varsovie près de la frontière polonaise. Walters poursuit. Si les soviétiques envahissent, il y aura la guerre. Ce sera une petite guerre, les Polonais se battront. Mais nul ne peut en prédire les conséquences.
Durant les deux mandats de Ronald Reagan à la Maison-Blanche, William Casey, accompagné du général Walters, rencontre le pape une quinzaine de fois. Le temps des rendez-vous est millimétré, 40 minutes, pas plus. Et encore une fois, pour éviter tout soupçon. Dans les mois qui suivent cette première rencontre, Jean-Paul II reçoit des mains du chef de la CIA des informations classifiées de la plus haute importance. L'état de santé déclinante du secrétaire général de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, la situation politique en Chine, le terrorisme en Europe et au Moyen-Orient. En retour, les services secrets du pape délivrent des notes sur la situation en Pologne, les forces en présence, les besoins de Solidarnosc. Et dès lors, un constat s'impose pour les historiens qui vont étudier cette relation entre le pape et la CIA. Car ce lien est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui explique qu'il ait été par la suite mal compris du grand public. Si sur le papier on a longtemps cru que le pape était devenu un allié, un agent de terrain pour faire remonter des informations, il reçoit de la CIA beaucoup plus qu'il ne donne aux Américains. Jean-Paul II est un stratège. Il a conscience de sa position déterminante sur l'échiquier des relations Est-Ouest. Et il entend jouer sa carte le mieux possible afin de libérer le peuple polonais de l'emprise du communisme.
Le journal de Niastanio.
Après Versailles, Ronald Reagan poursuit son tour d'Europe. Il a passé 5h30 à Rome cet après-midi, avec Jean-Paul II tout d'abord, puis avec Giovanni Spadolini et Sandro Pertini. Le président américain a parlé des différents conflits qui déchirent le monde. Tous ont dit leur très grande préoccupation, aussi bien face au conflit du Liban qu'à celui des Malouines. Les Malouines, justement, Ronald Reagan aura l'occasion d'en parler en tête-à-tête avec Margaret Thatcher, puisqu'il doit se rendre à Londres ce soir pour sa troisième étape européenne.
Lundi 7 juin 1982, Rome, cité du Vatican. Sur l'esplanade de la place Saint-Pierre, des milliers de fidèles et de touristes patientent pour entrer dans la basilique. Au même moment, dans une bibliothèque située loin des regards indiscrets, le pape reçoit donc un invité de marque, le président des États-Unis, Ronald Reagan. L'échange était prévu pour ne durer qu'une dizaine de minutes. Les deux chefs d'État, oui, le pape est aussi un chef d'État, vont rester en tête-à-tête pendant plus d'une heure. Jean-Paul II, ancien membre d'une organisation catholique clandestine pendant la guerre, et ce président, ancien acteur de cinéma à Hollywood, partagent plusieurs points communs. L'un comme l'autre voue une haine farouche au communisme, voire obsessionnelle. L'un comme l'autre croit au respect des idéaux chrétiens. Et enfin, tous les deux ont récemment échappé à une tentative d'assassinat. Et ce dernier point est déterminant dans la relation qui se construit entre eux. Dans son article, le journaliste Karl Bernstein explique « Le pape et le président pensaient être investis d'une mission spirituelle. Les deux hommes partageaient l'idée que le communisme athée vivait dans le mensonge. » Lorsque celui-ci serait compris de tous, le communisme s'effondrerait inévitablement. Des propos confirmés plus tard par le conseiller à la sécurité nationale, William Clark. Et selon Clark, lors de cette rencontre, Reagan aurait lancé au pape « La partition de l'Europe issue des accords de Yalta est une grave erreur. Dieu nous a épargnés dans un but précis, celui de libérer la Pologne. » écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jean-Paul II et la CIA, histoire secrète d'une sainte alliance.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Depuis l'arrivée de Jean-Paul II à Varsovie, le pouvoir répond par l'intimidation et les avertissements. L'intimidation, c'est pour tous les Polonais, les millions qui font ce pèlerinage et doivent prier sous la surveillance constante de la milice. Les avertissements, c'est pour l'Église et donc pour le pape. Les militaires n'admettent pas qu'à l'abri des rassemblements de masse, des banderoles de solidarité puissent surgir en toute impunité. D'où l'insistance du gouvernement sur le non-respect par l'Église des engagements qui auraient été pris avant cette visite. Mais il y a plus grave, c'est d'abord l'autorité totale du pape sur ses compatriotes, alors que le pouvoir n'est toujours pas parvenu à se faire accepter par la société. Et puis, il y a le discours, proprement dit, de Jean-Paul II, qui, à travers le rappel de valeurs spirituelles, morales et sociales, dit aux Polonais « tenez bon, la Pologne, c'est vous, pas ceux qui tiennent le bâton ». Quand Jean-Paul II aura terminé son périple, il aura parlé ainsi à 6 millions de Polonais, plus que les communistes n'en ont réuni en 40 ans. Le pape représente plus que jamais la légitimité dans ce pays. Mais il faudra faire attention à ce qui se passera après son départ.
Juin 1983, le pape Jean-Paul II effectue son deuxième voyage officiel en Pologne. À Katowice, dans le sud du pays, malgré une pluie battante, plus d'un million et demi de personnes se rassemblent pour applaudir le souverain pontife. Le lendemain, à Wrocław, même scène de liesse. Certains racontent avoir passé la nuit dans des bus pour traverser le pays et voir le pape. Dans cette foule dense et compacte, on voit fleurir panneaux et banderoles aux couleurs et slogans de Solidarność. Le syndicat polonais, devenu organisation clandestine, bénéficie de l'aide financière du pape et de l'Église. Après un an de détention en résidence surveillée, son leader charismatique, Lech Walesa, vient d'être remis en liberté. Au Vatican, c'est le secrétaire particulier du pape, le cardinal Divitch, qui gère personnellement l'argent envoyé à Solidarność. Divitch joue le rôle de trésorier et donne des liasses de billets dissimulées dans des serviettes en cuir ou des valises. Ensuite, ceux qu'on surnomme les agents du pape franchissent les frontières de la Pologne au titre d'un voyage officiel d'ordre religieux. Ils sont rarement fouillés ou questionnés. Ils peuvent ainsi remettre directement l'argent aux membres de Solidarność. D'après les estimations établies par plusieurs historiens, l'aide apportée par le Vatican jusqu'en 1989 se chiffrerait à plus d'une centaine de millions de dollars. Certaines rumeurs prétendent même qu'une partie de cet argent provient des fonds secrets de la CIA. Pour George Mink, sociologue et spécialiste de l'Europe de l'Est, Jean-Paul II met la question polonaise au centre de son pontificat et d'après lui, ce pape est prêt à tout pour faire chuter le régime communiste.
L'objectif principal de Jean-Paul II, c'est sans doute d'enrayer ce qui procédait de la violence, c'est-à-dire de la terreur violente ou douce que pratiquait le pouvoir de Jaruzelski, parce qu'il pense que c'était le viol des esprits. Et il faut donc donner cet espoir aux Polonais pour les retourner en quelque sorte. N'oublions pas que ceux qui participent au cortège officiel, c'est le fruit de la normalisation rampante. C'est cette majorité silencieuse polonaise, un peu schizophrène. Ce sont ces gens qui, en privé, disent la vérité, en public, disent le mensonge. Et Jean-Paul II veut absolument remédier à cette maladie du système de type soviétique, ce dédoublement des personnalités. Il veut que les gens soient dignes d'eux-mêmes et qu'ils négocient à propos de leurs intérêts de groupe ou individuels.
En 1984, preuve que les services secrets officieux du Vatican représentent désormais une menace pour les soviétiques, le KGB organise une conférence extraordinaire en présence des dirigeants des services, disons, frères. Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est et même Cuba. C'est qu'il y a urgence. Il s'agit de combattre les activités dites subversives du pape en Pologne et sur l'ensemble des continents. Preuve encore du soupçon soviétique sur l'Église catholique, l'appartement du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Casaroli, est placé sur écoute par le KGB. Pire, les services secrets polonais réussissent à infiltrer une taupe au sein du Vatican. Cet individu, nom de code Dominique, est un prêtre qui circule librement au cœur de la basilique Saint-Pierre de Rome. Organisation de l'administration papale, identification de certains évêques chargés de transmettre en Pologne des messages secrets de Jean-Paul II, la taupe Dominique, transmet à Varsovie et donc à Moscou un grand nombre d'informations sur les activités parallèles et discrètes du pape, en particulier sur la préparation de ses voyages à l'est du rideau de fer. Pourtant, à aucun moment l'infiltré ne mentionne des contacts entre le pape et les Américains. À aucun moment non plus le rôle de la CIA n'est mentionné dans ses rapports. Les liens entre le Vatican et la CIA seraient-ils moins importants qu'on ne le pense? Pour les spécialistes du renseignement, il y a peut-être une autre explication. On l'a vu, le pape traite directement avec le directeur de la CIA. Ensuite, les hommes sélectionnés par Jean-Paul II pour faire partie de son premier cercle sur la Pologne ne se connaissent pas tous et occupent des postes en apparence subalternes. Le pape crée ainsi, et dès le début, un cloisonnement qui évite toute fuite d'informations. Donc, seul Jean-Paul II et son secrétaire particulier Dibitsch ont une vue d'ensemble du dispositif et des échanges avec la CIA. En fait, il aurait fallu au KGB mettre directement le pape sur écoute pour connaître la véritable nature de sa relation avec le président Reagan et les services secrets américains. Alors, ce sont les services secrets de l'Est qui vont tenter de s'attaquer à l'image du pape en lançant de fausses rumeurs, comme l'explique ici Monsieur X dans l'émission Rendez-vous avec X.
Bien sûr, le KGB n'est pas resté passif et a mis en place un certain nombre de mesures actives.
Oui, des mesures de désinformation.
C'est ça, oui. Et la centrale soviétique pouvait compter sur un certain nombre de proches du pape qui l'avaient suivi à Rome.
Et des agents doubles, en somme ?
Aucune de ces initiatives n'a débouché sur quelque chose de sérieux. La popularité de Jean-Paul II emportait tout sur son passage.
La CIA, justement. D'après l'enquête du journaliste Karl Bernstein, le service de renseignement américain aurait soutenu Solidarnosc par l'envoi d'ordinateurs, de téléfax, de téléphones et autres matériels d'imprimerie. L'agence de renseignement américaine aurait ainsi ouvert un bureau de recrutement à Paris. C'est là qu'elle aurait sélectionné, formé et préparé plusieurs dizaines d'agents pour les envoyer ensuite en Pologne. Une fois sur place, ces hommes, sous couvert d'un travail d'ouvrier, sont chargés d'espionner les infrastructures et l'administration du régime de Varsovie. Ils sont aussi agents de liaison pour coordonner les efforts des militants de Solidarnosc dans tout le pays. Interrogé par Karl Bernstein, Edward Derwinski, ancien sous-secrétaire d'État aux questions de sécurité internationale de l'administration Reagan, raconte comment fonctionnait la collaboration entre les États-Unis et le Vatican.
Les services secrets américains se sont systématiquement branchés sur l'Église pour mettre en place leur opération en Pologne. Et pas uniquement sur la hiérarchie, mais aussi sur certaines petites églises ou certains évêques. Ainsi, certains venaient nous voir pour nous dire ce dont ils avaient besoin. Ils étaient aussi en lien avec le Conseil national de sécurité. Il ne s'agissait pas d'une simple opération de la CIA, mais d'un subtil mélange d'officiels et de clandestins, d'interventions publiques et d'alliances occultes.
Pour le directeur de la CIA, William Case, l'objectif des États-Unis est d'aider Solidarnosc à produire et diffuser du matériel d'information pour continuer sa lutte contre le régime communiste. Autrement dit, cassettes vidéo et émissions de programmes radio, affiches, journaux clandestins. Les lettres de Solidarnosc sont par exemple photocopiées et polycopiées sur du matériel américain. Certaines d'entre elles se retrouvent placardées ensuite sur les murs des commissariats et autres bureaux de la police secrète polonaise. Parmi ceux qui ont joué un rôle consultatif, on trouve Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale sous Carter, qui raconte notamment que s'il y avait quelque chose à faire pour soutenir Solidarnosc, nous, les États-Unis, le faisions. Soutenir un effort clandestin suppose d'énormes investissements en matériel, en termes de réseau. Et c'est pour ça que Solidarnosc n'a pas été écrasé, affirme-t-il. Pour Brzezinski, l'Église joue le rôle de guide et organise le militantisme de Solidarnosc pour qu'il soit efficace. De son côté, la CIA s'occupe de faire en sorte que rien ne manque. Et Brzezinski conclut: la Pologne était une bombe prête à exploser au cœur même du communisme, aux frontières de l'Union soviétique. si la pression montait un peu trop, la bombe sautait. C'est pourquoi il nous a fallu parfois brider Solidarnosc. Pendant ce temps, le directeur de la CIA continue de rencontrer le pape, en moyenne 2 fois par an, et en fonction du contexte international. De ces échanges, aucune information ne filtre. En revanche, Jean-Paul II et le président américain n'hésitent pas à s'afficher ensemble lors de rencontres de dernière minute, comme ici en Alaska au printemps 1984. Correspondance de Bertrand Vanier pour France Inter.
Même à 9000 km du Vatican, la coutume a prévalu. À Fairbanks, rien n'a filtré du tête-à-tête entre le pape et le président des États-Unis. Une rencontre privée, non officielle, insistait-on dans l'entourage du pape. Les deux hommes se sont parlé sans témoin pendant 20 minutes environ dans une salle de l'aéroport. Au dehors, sous une petite pluie froide, entre le décédiste papal et l'avion présidentiel américain, quelques centaines de personnes. Alors de quoi ont bien pu parler les deux hommes ? Le pape, on le sait, pense, et il l'a dit publiquement, que le sort du monde dépend pour une grande part des États-Unis. On sait aussi que Jean-Paul II apprécie particulièrement les positions prises par Ronald Reagan sur le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et le Vatican. Quant à Ronald Reagan, en dehors des problèmes de fond, n'oublions pas qu'une rencontre avec Jean-Paul II, qu'il a qualifié d'homme de paix, de liberté et de droits de l'homme, qu'une telle rencontre est bonne pour son image à 6 mois des élections présidentielles.
Au mois de janvier 87, le pape effectue une nouvelle visite en Pologne. Cette fois, il rencontre à Varsovie le général Jaruzelski. Préparée de longue date, cette réunion au sommet est le fruit de nombreuses négociations secrètes, évidemment. 2 semaines plus tard, Reagan lève l'embargo imposé à la Pologne suite à la reprise du dialogue entre l'Église et l'État polonais. Malgré une bouffée d'air économique, la chute du communisme en Europe de l'Est s'accélère. Tel est le vent de l'histoire. Après la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est, tous connaissent des troubles sans précédent, comme un jeu de domino. En juillet 88, Mikhail Gorbatchev se rend à Varsovie et reconnaît que le gouvernement polonais ne peut pas diriger le pays sans la coopération de Solidarnosc. Le 5 avril suivant, le syndicat et les militaires polonais au pouvoir signent une série d'accords légalisant le syndicat. En décembre 90, de premières élections libres sont organisées en Pologne. 9 ans après son arrestation par Jaruzelski, par un retournement de situation dont l'histoire a le secret, Lech Wałęsa, sacré entre-temps prix Nobel de la paix, devient président de la République en Pologne. Alors oui, d'après les sources disponibles, on peut affirmer que la CIA et le Vatican ont collaboré sur le terrain et ont échangé des informations au plus haut niveau. Mais ce oui mérite une nuance. La relation qui unit le pape aux Américains est beaucoup plus complexe qu'un simple rapport entre un service de renseignement et une source. Le pape apprenait beaucoup plus de choses que ce qu'il transmettait ensuite aux Américains. Et surtout, il a traité avec eux parce que leurs intérêts convergeaient. Pousser les dirigeants soviétiques polonais à renoncer au pouvoir en soutenant financièrement et logistiquement Solidarnosc. C'est ce qu'on appelle la realpolitik. Pas trop de principes, non, mais de l'efficacité. Une stratégie vieille comme le monde.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Jean-Paul II et la CIA, notre invité, Yvonique de Noël. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien dans Affaires Sensibles. Vous êtes spécialiste des renseignements et des affaires d'espionnage. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont l'un est consacré précisément à notre sujet, Les espions du Vatican de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Votre livre a été réédité aux éditions Nouveau Monde en 2023. Alors, on va revenir sur l'existence réelle ou supposée d'un véritable service d'espionnage au Vatican. Je voudrais vous poser d'abord une question. Qui a gagné la guerre froide ? À cette question, on répond par réflexe, et à juste titre, Ronald Reagan. On peut dire aussi Jean-Paul II. Et puis, il reste quand même le facteur Gorbatchev, qui l'a gagné aussi, mais à son corps défendant, car il tenait à la survie de l'URSS. Hein. Une URSS différente, une URSS quand même.
Gorbatchev lui-même a dit que la chute du communisme en Pologne n'aurait pas eu lieu sans Jean-Paul II. Donc les acteurs eux-mêmes reconnaissent à Jean-Paul II un rôle éminent dans la chute du communisme. Après, c'est une histoire de domino, n'est-ce pas ? C'est le premier pays qui entraîne les autres par l'exemple. Donc, d'un point de vue géopolitique, ce sont les États-Unis qui ont gagné la guerre, mais avec un allié de poids. Et c'est justement cette alliance étonnante que vous avez bien racontée, dans laquelle chacun avait ses propres intérêts qui n'étaient pas complètement alignés.
Alors, sur le papier, le Vatican est une petite cité, État, avec son administration, son chef d'État, le pape, son économie et une diplomatie portée sur la négociation internationale, le règlement des conflits mondiaux. Or, dans cette affaire, et dans votre livre, on découvre que le Saint-Siège abrite aussi des espions. Est-ce qu'on peut dire que le Vatican dispose d'un véritable service de renseignement ?
Il n'y a pas un sigle, un service avec un directeur bien identifié, un organigramme, différents sous-services. Ça ne marche pas comme ça. En revanche, le Vatican, qui est à la fois un État, certes petit, et également une autorité morale, ne peut faire l'impasse sur le renseignement. Il y a au sein du Vatican des gens qui s'occupent de renseignement. Alors, il y en a qui s'en occupent à plein temps, il y en a qui s'en occupent de temps en temps, en fonction des missions qu'on leur attribue. Donc, il y a un groupe principal au sein de la secrétaire d'État, mais la particularité du Vatican, c'est qu'il y a également d'autres poches d'agents de renseignement, par exemple au sein des congrégations. Dans l'entre-deux-guerres, les jésuites sont particulièrement en pointe sur la lutte contre le communisme international. Pour autant, ce ne sont pas des espions. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de prêtres qui ne sont pas des espions et qui ne doivent pas être considérés comme tels. Ce qui ne veut pas dire qu'au Vatican, on ne s'occupe pas de débusquer des taupes, de faire la diplomatie parallèle et d'envoyer des prêtres en mission de l'autre côté du rideau de fer pour justement recueillir du renseignement, voire un peu plus.
Est-ce que c'était le cas déjà sous des papes précédents ? On ne va pas remonter trop loin, mais on va partir de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, et puis les deux autres après Jean-Paul II ?
Oui, en réalité, ça débute dès l'entre-deux-guerres. En fait, c'est le déclencheur un peu de l'histoire que je raconte dans mon livre, c'est la révolution russe et les libertés religieuses qui sont menacées dans les pays de l'Est. Donc, c'est un peu l'histoire de l'affrontement entre l'international catholique et l'international communiste. Cet affrontement étant mis sur pause, entre guillemets, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où le nazisme devient la menace majeure contre le catholicisme. Donc après la guerre, effectivement, Jean XXIII, qui est un pape d'ouverture vis-à-vis de l'Est, mais qui...
Vis-à-vis de tout, d'ailleurs.
Vis-à-vis de beaucoup de choses. Mais qui n'est pas pour autant un naïf. C'est-à-dire que Jean XXIII vise davantage à obtenir des choses qu'il obtient du reste. Et je montre, par exemple, que pendant la crise des missiles de Cuba, il joue un peu un rôle de facilitateur dans l'ombre pour permettre aux Américains et aux Russes de se parler à un moment où on est au bord de la guerre. Mmh. Donc Jean XXIII n'est pas un naïf, mais effectivement, il aborde les choses différemment. Paul VI est un pape de rééquilibrage. Alors, il est considéré par les Américains comme un peu trop à gauche, ce qui fait sourire aujourd'hui, puisque ce n'est pas vraiment l'image qu'il a laissée. Mais Paul VI est quelqu'un qui va à la fois travailler avec la CIA, moins que Jean-Paul II, et en même temps poursuivre une politique raisonnée d'ouverture à l'Est. On appelait ça l'Ostpolitik. Donc, voilà. Mais on reste quand même dans un affrontement entre les puissances. Et puis, effectivement, on change complètement d'échelle avec Jean-Paul II. C'est-à-dire, ce que je montre, c'est que c'est un pape qui a lui-même eu une formation qui a grandi au sein de l'Église, en partie grâce à des activités clandestines. À la fois, il a suivi un séminaire clandestin pendant la guerre, puisque c'était nécessaire sous le nazisme. Et ensuite, lui-même, devenu évêque puis archevêque, a eu des activités de publication clandestine, a tenu des séminaires avec des prêtres d'autres pays de l'Est. Donc, il a appris à amadouer le régime communiste et à profiter de ses manque ou de ses faiblesses, et ce qui fait d'ailleurs qu'il a grimpé dans la hiérarchie sans aucune opposition de la part du parti communiste polonais, qu'il le voyait plutôt comme compatible avec le communisme, c'est-à-dire l'erreur de jugement.
Rapidement, les deux autres, Benoît et François.
Benoît est un pape un petit peu à part, parce que c'est vraiment un intellectuel conservateur, mais c'est quelqu'un qui, clairement, n'a pas trouvé le mode d'emploi du fonctionnement du Vatican. Donc, il a plus été victime et témoin impuissant de tout un tas d'intrigues que je raconte, tout en étant affligé de voir ce qui se passait, mais en étant absolument incapable de remettre de l'ordre là-dedans. Donc, il en a en quelque sorte tiré d'une manière assez digne les conclusions en se retirant. François est beaucoup plus roué. D'abord, c'est quelqu'un qui a connu la dictature, qui a connu lui aussi des activités clandestines, donc il sait de quoi on parle.
En Argentine, sous Videla, également.
En Argentine. Donc, il a, effectivement, il était relativement vierge par rapport aux intrigues de la cité vaticane. Il lui a fallu apprendre comment fonctionnait le Vatican, mais il est assez habile et il a réussi un certain nombre de missions, d'actions clandestines. Par exemple, c'est à mettre à son crédit que d'avoir réactivé dans l'ombre la discussion entre les États-Unis de Barack Obama et Cuba, et d'avoir permis la réouverture des relations diplomatiques.
Alors, on va écouter le pape Jean-Paul II, donc toute sa dimension politique. C'est un discours du mois d'octobre 1978.
Non abbiate paura.
N'ayez pas peur.
Aprite.
Ouvrez.
Anzi, spalancate le porte a Christ.
Ouvrez toutes grandes les portes du Christ.
A la sua salvatrice potestà.
À sa puissance salvatrice.
Aprite.
Ouvrez.
I confini degli stati.
Ouvrez les frontières des États.
I sistemi economici.
Les systèmes économiques et politiques. Ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. C'est probablement les quatre mots les plus célèbres du pape. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était un appel à résister?
Alors, le pape était très habile pour faire passer des messages politiques sous un vernis religieux.
Oui.
Par exemple, pendant ses voyages en Pologne, il n'a jamais franchi la ligne de ce qui avait été convenu entre le Vatican et les autorités polonaises. C'est-à-dire qu'il n'a jamais directement mis en cause le régime communiste, tout en défendant à chacun de ses discours des valeurs qui, implicitement, amenaient à saper le communisme. Donc là, il fait exactement la même chose. C'est un discours d'ouverture, d'espérance, d'optimisme, mais qui, en réalité, veut bien dire ce qu'il veut dire. D'abord, liberté religieuse, liberté pour les peuples de circulation, de coopération. Donc, effectivement, c'est sa ligne, c'est sa façon de faire. Il va jusqu'au trait. Qui sépare de la belligérance, mais ne franchit pas le trait.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Yvonique de Noël, lorsqu'on lit votre livre, on découvre qu'une très grande partie de l'administration Reagan était composée de catholiques. Côté américain, certains protagonistes comme Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale sous Carter, étaient eux d'origine polonaise. Ça a joué cette proximité à la fois de racines idéologiques, de langue et de religion.
Oui, incontestablement, ça ne suffisait pas, mais ça fait partie de l'équation d'ensemble. Brzezinski, bien sûr, William Casey est un catholique qui va à la messe tous les matins. Vernon Walters, l'émissaire secret de Reagan, qui non seulement est catholique, mais parle à peu près toutes les langues que parle Jean-Paul II. Donc, il y a une complicité entre ces hommes qui sont de même génération, qui se comprennent, qui, bien que venant de bords différents, ont le même habitus.
Alors, on voit aussi que, à l'intérieur du Vatican, pardonnez l'expression familière, mais il y a aussi un panier de crabes politiques, et politico-religieux d'ailleurs. Le Puig Dei à côté, les jésuites. Est-ce que dans ces affaires d'espionnage, il y a des interactions, ou au contraire des blocages entre les différentes obédiences de l'obéissance?
Alors déjà, il y a la secrétaire d'État. Alors la secrétaire d'État, c'est assez énorme. Ça réunit les fonctions de Matignon, des affaires étrangères, de l'intérieur. Enfin, c'est une espèce de...
C'est ce qu'on appelle la curie ou pas ?
Alors c'est au sein de la curie.
Ah, d'accord, au sein de la curie.
Mais c'est, on va dire, le cœur du pouvoir.
D'accord.
Bon, la secrétaire d'État, il y a une bonne moitié d'Italiens qui, eux, sont les rois de la combinazione, des affrontements, etc. Jean-Paul II trouve tout ça et le laisse en état, de manière très maligne. Il nomme le cardinal Casaroli donc, pour gérer tout ça. Lui, il connaît à fond. Et simplement, tout continue comme avant, sauf que les affaires qui concernent les pays de l'Est ne se passent pas du tout à la secrétaire d'État, ce qui d'ailleurs complique les choses pour les espions étrangers qui cherchent là où d'habitude on cherche. Bon. Et à côté de ça, il peuple la Curie dans des endroits parfois totalement improbables, de prélats de l'Est, pas seulement polonais. On a beaucoup parlé de la mafia polonaise, mais en fait c'est une mafia d'Europe de l'Est. Il y a des Tchèques, il y a des Roumains, enfin tous les pays sont représentés. Mais donc ces personnes qui constituent en quelque sorte le service secret du pape, en tout cas le service dirigé vers l'Est, sont placées un peu dans des endroits où on ne va jamais penser aller les chercher. Et du coup, ça les rend très compliqué à identifier, d'autant plus que quand ils se réunissent à l'écart et certainement pas à la secrétariat d'État. Donc, et qu'en plus, ils ne savent pas forcément les uns et les autres ce que l'ensemble fait. Donc ça rend le dispositif d'ensemble assez indéchiffrable.
Parce qu'on pourrait penser que l'Opus Dei, qui représente l'aile droite des catholiques, a poussé à la roue, justement, contre le communisme.
Alors, l'Opus Dei est un mouvement, effectivement, ultra-conservateur, qui s'est beaucoup développé en Espagne, en Amérique du Sud, et qui est lui-même structuré comme un service secret. Ils se sont développés un peu en s'imposant, en prenant la place que d'autres pouvaient occuper. Jean-Paul II les regarde d'un œil favorable, ça c'est sa partie plus sombre.
Dogmatique aussi, hein.
Oui. D'avoir permis de prospérer des ultra-catholiques, mais qui eux-mêmes ont leurs propres activités vis-à-vis de l'Est, un peu autonomes en fait du reste, mais qui reportent toujours, tout remonte jusqu'au pape, et donc lui seul a cette vision d'ensemble.
Une dernière question, on le disait, la coopération entre la CIA et Jean-Paul II, c'était pas forcément donnant-donnant, il semble que la CIA ait plus donné que le pape, finalement. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est pas faux. Déjà, premier correctif par rapport à ce que raconte Karl Bernstein que vous avez cité. Jusque 1983, la CIA ne fait rien en Pologne. C'est-à-dire que en 92, quand Bernstein interroge les anciens de l'administration Reagan, il se pousse un peu du col sur le thème « c'est nous qui avons tout fait ».
Ouais.
Non. En réalité, c'est justement parce que Jean-Paul II a mis des moyens colossaux de soutien à Solidarité que les Américains se sont dit « bon sang, mais ça pourrait marcher ». Et donc, ils sont venus un petit peu à la rescousse. En revanche, oui, sur le partage d'informations, le charisme incroyable de Jean-Paul II a fait qu'ils étaient assez subjugués et par ailleurs, ils avaient des contreparties à tout ce qu'ils donnaient au Vatican, notamment en Amérique du Sud où Jean-Paul II laissait faire les juntes associées aux États-Unis.
Merci infiniment, Yvonne de Noël.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la diplomatie secrète entre Jean-Paul II et les États-Unis, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.